Terrorist networks, terrorist states, terrorist networks, terrorist states.
Et non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique numéro 113, 33e émission de cette saison 8 avec Gilou à la technique.
Et oui, bonsoir Pascal, bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent sur le 93.9 ou les ondes de Radio Escapade dans le nord du département ou de ses CKIA à Québec.
Et oui, bienvenue à tous ou sur le net aussi, divergence-fm.org.
Ce soir, pour cette 113e, au sommaire, la traditionnelle, indispensable, incontournable et mirifique revue de presse de l'April, proposée par Emmanuel Charpentier et Luc Fievier de l'April, qui nous emmèneront voir diverses choses fort intéressantes cette semaine, comme un retour sur le IG8, Oracle versus OpenOffice, ou le contraire, on ne sait pas trop. Skype craqué par un chercheur russe et racheté par Microsoft, du logiciel libre sur Internet, stade critique pour le futur d'Internet, le point commun entre les révolutions arabes et la French Revolution, Microsoft qui touche 5 euros sur chaque HTC Android vendu, ça trouve le cul, et puis une géopolitique du cyberespace, sans oublier un article de plus qui concernera, ça c'est nous qui l'incluons, la musique Internet, l'aspect d'IDAM, l'Adopi, la rémunération, tout ça, avant de faire un double retour sur le IG8, Pascal.
Et oui, double retour sur le IG8, ce sommet qui se passait à Deauville et dont Jérémy Zimmermann de la Quadrature du Net y était exceptionnellement, j'allais dire, invité pour, hélas, représenter la faible proportion des utilisateurs. Ce sera une allocution de Jérémy Zimmermann ou une interpellation à ceux qui étaient sur la scène. Et puis ce sera aussi une réaction de Jérémy Zimmermann au micro donc de la télé locale qui était sur place.
Voilà, tout sera assez savoureux. Et puis ensuite, ce sera Pierre Jocelyn André qui est avec nous. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Et on parlera d'un format audio, d'une nouvelle carte son audio analogique Linux Audio, et puis sans doute de science et peut-être aussi de philosophie, d'éthique. Ce sera assez croustillant. Avant évidemment de retrouver nos traditionnels agendas du libre, qu'ils soient français, belges ou québécois, sans oublier la musique.
Sans oublier la musique, et ça va être du lourd avec Parpaing, un groupe de Toulouse, trois morceaux en licence créative, en licence art libre, et oui, une licence qui n'est pas de la Creative Commons pour une fois.
Voilà, avec 35 mm, valseau, parquet, rabalant et le long du pied, Parpaing, c'est du lourd, comme tu le disais, très à propos. À présent, il faut céder la place à notre petite virgule pingouinesque.
Les nouvelles du front.
Les nouvelles du front, c'est la revue de presse de l'April pour cette semaine
22,
v'là les flics. On l'écoute tout de suite avec un petit appel que je lance comme ça au débouté. Nous allons organiser une collecte pour acheter des micros à nos amis.
Oui, ça fera moins karaoké.
Luc et Manu, ça fera moins karaoké.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
2 de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 22 de l'année 2011. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors aujourd'hui,
jolis article. On va vous parler de LibreOffice, de Skype, les prémices du web, l'article d'Orange. Nous sommes à un stade critique pour le futur d'Internet, quelque chose d'assez sympa. On va parler des révolutions, mais ce coup-ci la French Revolution, et puis brevets logiciels et Microsoft, et pour finir, géopolitique du cyberespace. Que du bon.
Un premier article, article 01net Pro, Oracle libère OpenOffice, altruisme ou machiavélisme, par Alain Clapeau.
Le titre est particulièrement bien trouvé, je trouve.
Oui, bah, c'est exactement ça. Donc, on avait parlé d'OpenOffice et de la saga qui s'était passée. Il y a eu un fork il y a quelques mois. Des gens qui ont monté un nouveau projet qui s'appelle LibreOffice, que tu as cité à la place d'OpenOffice, hein, alors que ça parle d'OpenOffice.
Oui, c'est vrai, oui, effectivement.
Donc, ces gens sont partis et ils ont monté LibreOffice. Et Oracle, qui, un peu provoqué par son comportement, ce fork, a décidé finalement de repasser le bébé à la fondation Apache.
Ouais, et là, j'avoue, ils ont vraiment joué bizarrement. Ils avaient instamment dit plusieurs fois qu'ils ne libéreraient pas de cette manière-là le code d'OpenOffice. Ils le garderaient sous leur coupe. Et là, bah, ils ont changé d'avis, finalement. Ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à le faire fonctionner tout seul. La communauté s'est retournée contre eux. Mais ils ne donnent pas OpenOffice à la fondation LibreOffice, qui est en cours de création, mais à la fondation Apache.
Alors oui, LibreOffice, c'est quand même 28 millions de postes déjà d'installés, ce qui est quand même pas rien, fork a plutôt bien marché. OpenOffice, il y a un autre gros acteur qui est super intéressé, c'est IBM, parce que lui, il a une solution qui est basée là-dessus.
C'est, oui, je sais plus quel nom, mais bon, des trucs à eux.
Voilà, et la grosse information avec la fondation Apache, c'est que Apache, s'il reprend le projet, il le prend sous licence Apache.
Eh ben oui, hein, c'est un peu le principe. Or, OpenOffice et LibreOffice étaient sous des licences de type GPL, donc qui inclut la clause copyleft, qui est incompatible avec la licence Apache. Alors, incompatible, pas dans les deux sens, ce qui est amusant.
La licence Apache est une licence non copyleft, c'est un petit peu comme BSD, c'est-à-dire qu'on a le droit de prendre le code source est disponible, et on peut en faire quelque chose de propriétaire, le bidouiller dans son coin, et ne rien reverser, et dire voilà, c'est à moi. Tout ce qu'on ne peut pas faire, c'est bloquer le code source original.
Exactement, je pense que c'est ce qui doit plaire à IBM quelque part, et c'est peut-être IBM qui a ciblé ce passage de témoin entre Oracle et Apache, en tout cas je me le demande.
Mais du coup, LibreOffice, eux, ils sont copyleft, c'est-à-dire que leur développement à eux, on doit les reverser. En revanche, rien ne leur interdit d'intégrer les développements d'IBM et d'OpenOffice. Donc eux disent, bah, allez-y les gars, on va pouvoir récupérer, vous pourrez rien prendre en face.
Oui, enfin, c'est sur le principe, parce que dans les faits, c'est le problème des forks, c'est qu'avec le temps, ils divergent.
Ils divergent, c'est beaucoup.
Ça fait énorme. Et là, récupérer ce code source dans ces cas-là, c'est pas toujours facile. Mais bon, il est toujours aussi possible que, bah, une fois que la fondation Apache sera aux commandes, eh bien, ils prennent d'autres décisions. Ça peut être amusant. Là, ils ont peut-être juste accepté sur le principe. On ne refuse pas un cheval donné, mais bon, on regardera un peu plus tard pour les
deux. En tout cas, la fondation LibreOffice a un point très important qui est de conserver l'interopérabilité du fichier. Donc, on a le fichier ODF, le format ODF, et qu'on soit sur OpenOffice ou LibreOffice, même si les deux logiciels divergent, on pourra toujours continuer à utiliser les mêmes fichiers.
Ensuite, c'est itexpresso.fr. Le protocole de Skype a été craqué par un chercheur russe de Jacques-Franck de Ferrière. Alors, chercheur russe, c'est quoi ? C'est un cracker, quoi. C'est un spammeur, hein, russe.
Ben non, c'est un vrai chercheur et un vrai russe. Après, enfin, semble-t-il. Là, le gars part du rétro-engineering, c'est-à-dire il a pris ce qui passait, puis il a essayé de comprendre comment ça marchait. Il a réussi à craquer en grande partie le protocole de Skype. Sa motivation, c'est quoi ? Sa motivation, c'est de faire une version libre.
Oui, justement, c'est ce qu'il dit. Mais
c'est ce qu'il dit.
Tu lui fais confiance, toi ?
Bah, je sais pas, moi je le connais pas personnellement, donc je peux pas savoir. Donc Skype, il y a quand même eu des nouvelles très importantes côté Skype, c'est que ça a été racheté.
Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas relayé parce que Skype est un logiciel propriétaire, hein, donc c'est pas tout à fait ça passe pas tout à fait dans mon radar. Mais là, effectivement, ils ont été rachetés pour 8 milliards de dollars par Microsoft. Et première décision.
8 milliards et demi. Je veux dire, bon, je sais que toi, t'es pas un demi-milliard près, mais bon, moi quand même un petit peu.
Oui, faut avouer. Et donc, première décision qui est tombée après ce rachat, qui est presque amusant, c'est oui, Microsoft est devenu un ami de l'open source, soi-disant. Oui, ils ne veulent plus empiéter sur l'interopérabilité, mais première décision, en juillet, ils vont arrêter d'être interopérables avec Asterisk, qui est une solution de voix sur IP qui était interopérable avec Skype. Bon.
Skype avait également des clients pour GNU Linux. Ben, on craint fortement que Microsoft arrête.
Oui, enfin, ils ont dit qu'ils n'arrêteraient pas. Hein.
Oui, mais bon, alors il y a d'autres exemples. Enfin, il n'y a aucun logiciel Microsoft qui tourne sous GNU Linux. En tout cas, toute cette affaire, en tout cas avec Asterisk, ça montre tout à fait l'optique dans laquelle ils sont. Et en tout cas, ça à retenir, puisque comme Microsoft aime bien dire ces temps-ci qu'ils sont à fond pour l'open source, avec leur champion de l'open source, retourneur de veste, dont on parlait il n'y a pas longtemps, voilà un bel exemple de la politique open source de Microsoft. Ils coupent les ponts. Voilà.
Bon, en tout cas, bravo à la Russie et à Efim Bushmanov. 9. J'espère qu'il va réussir à tout craquer finalement. Ça, ce sera très bien.
Atlantico, logiciel libre sur Internet, prémices du web 2.0 par Zireb Marouf.
Donc, je ne sais pas si c'est un super article, mais c'est un super auteur.
C'est pas un super article. Déjà, il nous parle de licence libre et de licence payante. Donc, ça fait une petite confusion entre libre et gratuit, etc., ce qui n'est pas le cas. Ensuite, il va nous chercher du logiciel libre, parler de web 2.0. Enfin, c'est un petit peu obscur, mais bon.
Oui, il remonte dans l'historique des sites sociaux, en partant par Match.com, SixDegrees.com, Friendster, Tribe.net, LinkedIn, enfin bon, il essaye de faire un panache de ce que sont les réseaux sociaux et d'expliquer ce que c'est. Et il semblerait même que, bah, en fait, tout ça, c'est un article qui est lié à un livre, Réseaux sociaux numériques d'entreprise, à Harmattan, par cet auteur.
Voilà, édition d'Harmattan, voilà, qui, pour les spécialistes des sciences humaines, savent bien que, voilà, quand on a édité à l'Harmattan, c'est en général qu'on a payé son édition.
Ah, mais c'est une vraie chose que tu dis. Mais bon, cet homme a l'air intéressant, il travaille dans une entreprise.
Oui, alors c'est ça qui rend l'article intéressant, c'est que ce gars bosse chez Orange.
Oui, et particulièrement, il bosse, alors c'est RH 2.0.
Oui, alors ça nous mène dans des états d'interrogation totale. Qu'est-ce que c'est que la RH 2.0, on ne sait pas, mais ça a l'air vachement fort en tout cas.
Mais
c'est intéressant parce qu'Orange, c'est quand même une boîte qui roule pour le gouvernement. Enfin, je veux dire, le patron d'Orange, c'est Stéphane Richard, qui était donc précédemment chef du cabinet du ministère du budget et qui était avant chez Veolia. Donc voilà, donc c'est une boîte qui a embauché Christine Albanel également. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que ça parle logiciel libre, web 2.0, enfin, liberté d'expression, etc., un petit peu, même si évidemment il aborde absolument pas la question de la neutralité du net dans son article, hein, c'est encore une des grosses failles. Mais en tout cas, bon, c'est quand même bien de voir qu'il y a une position prise de leur côté sur le sujet.
Nouvelops.com, nous sommes à un stade critique pour le futur d'Internet, de Boris Manenti.
Oui, alors c'est pas lui qui l'a dit, parce que c'est journaliste, hein. Voilà, et c'est une interview de Michelle Baker, qui est une femme, présidente de la fondation Mozilla.
Mais c'est super ça, ça veut dire qu'il y a des femmes aussi dans le logiciel libre. Hein.
On parle de l'IG8, donc c'est assez rigolo, on voit que l'interview commence par un silence quand on lui pose la question. Elle dit des choses frappées au coin du bon sens, mais c'est bien de les dire, et surtout sur un site du Nouvel Observateur, hein, qui est quand même qui ratisse assez large, qui explique que évidemment à l'IG8 il n'y avait quasiment que le monde du business, et qu'Internet c'est pas que du business, elle le rappelle. Et qu'il y a justement toute la richesse, et ça qui en fait tout l'intérêt. Elle parle également des principes de vie privée et des engagements de Mozilla là-dessus, où ils ont une charte sur la question de la vie privée. Alors on a une petite anecdote qui n'est pas dans l'article, mais qui justement illustre l'intérêt de ce truc-là, parce qu'on se dit toujours, moi j'ai rien à cacher.
Je voulais aller faire mes courses pour un voyage en passant par un transporteur. Et effectivement, il semblerait, je l'ai découvert aujourd'hui, que en revenant tous les jours pour regarder le prix augmentait.
C'est un transporteur, donc on a passé l'article, il faudra qu'on retrouve la référence parce qu'elle est intéressante. Et donc le site vérifie les cookies, et si vous revenez régulièrement pour vérifier les tarifs, il les monte.
Je suis dégoûté.
Voilà une application pratique de la surveillance des individus et des données personnelles. C'est pas juste pour savoir quelle est la couleur de votre slip, hein. Ça peut vous toucher directement au portefeuille.
Finalement, j'avais d'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais payé deux fois plus cher que quand j'avais commencé à regarder ce voyage. C'est bon. Ça fait mal au cœur.
Voilà, pour revenir sur l'article, un dernier truc, elle parle également de la neutralité du net, des lois lamentables type Adopi, etc. Bon, sur lequel elle a des points de vue qu'on connaît bien, donc on va pas s'étendre là-dessus. Alors, le Nouvel Observateur, encore lui, quel est le point commun entre les révolutions arabes et la French Revolution, par Mathieu Jacot.
Alors c'est pas tout à fait le même site que d'habitude, c'est pas le Nouvel Observateur,
d'accord,
c'est le plus...
ton plaisir c'est de me contredire, c'est ça.
C'est exactement, mais non, c'est important, tu n'as pas fait attention, c'est un nouveau site du Nouvel Obs, qui est pour tout le monde, pour venir écrire un peu les articles qui nous intéressent, et eux les remontent ensuite sur ce site.
Ouais, une initiative intéressante en soi déjà. Donc là, ça revient sur ce qui s'est passé un peu partout en France, et notamment Place de la Bastille, où tu t'es rendu, et dans la lignée de ce qui s'est passé en Espagne, et qui est dans la lignée de ce qui s'est passé dans les pays arabes, en Tunisie, etc., il y a eu des mouvements qui sont lancés, donc c'est un article qui traite du sujet, et qui notamment parle de l'importance d'Internet,
la cyberdémocratie,
en général. Oui.
Là, j'avoue que l'article, c'est pas non plus faramineux, mais il est intéressant. Il met en avant justement des notions d'open source governance, c'est-à-dire la capacité que les citoyens auraient de contribuer eux-mêmes aux lois. sous des mécanismes de type wiki par exemple. Bon, ça fait peur, hein, ça fait beaucoup peur à plein de gens.
Beaucoup peur, oui.
Ça fait très peur à plein de gens, effectivement, tu vois, j'en oublie mon vocabulaire. Mais bon, c'est des choses intéressantes, et je sais que justement, à Bastille et sur d'autres places, ils sont en train de discuter de tout ça de vive voix, avec des signes pour communiquer, avec des systèmes surtout basés sur le consensus, mais qui sont particulièrement bien foutus. Donc on va voir comment ça évolue. Je suis sûr qu'il y aura d'autres articles qui vont tomber sur le sujet.
Voilà, alors ce que moi je trouve intéressant dans cet article, c'est qu'il dit notamment que dans les pays arabes, il y avait un objectif simple et clair pour tout le monde, qui était d'abattre le dictateur en place, et que chez nous, c'est beaucoup plus flou. Et ça rejoint cette question de liberté d'expression sur Internet. C'est que les gens discutant les uns avec les autres, ils peuvent commencer à s'entendre, se mettre d'accord sur une vision du monde, alors qu'on a plutôt tendance à naviguer dans un flou qui est savamment entretenu par les médias traditionnels, parce qu'ils n'ont absolument pas intérêt à ce que les gens se parlent et se mettent d'accord sur la réalité des faits. Dernier article.
Avant-dernier article. On va parler de choses amusantes, brevets logiciels. Donc, Tom's Hardware, Microsoft touche $5 sur chaque HTC Android vendu par David Sivra. Donc là, ça fait mal au cœur. Même en vendant du logiciel libre, des appareils avec du logiciel libre, il faut payer à Microsoft. C'est quoi ce bordel?
Pour faire bref, HTC est, semble-t-il, viole des brevets appartenant à Microsoft.
Oh, c'est terrible.
Et donc Microsoft récupère $5 à chaque fois que HTC vend un téléphone avec Android. Donc Microsoft fait plus d'argent avec ça qu'avec les téléphones Windows 7 qui vend. Donc
oui,
on voit comment le brevet peut complètement flinguer toute la logique commerciale. Donc voilà une belle démonstration du système.
Et en plus, j'ai cru comprendre, c'était vraiment de la recherche du journaliste, car ce ne sont pas des informations qui sont publiques.
Oui. Dernier article, monde.fr, géopolitique du cyberespace, quelle stratégie adopter en matière de cybersécurité par Maxime Pinard.
Donc c'est un long article du monde.fr ID. Et qui parle justement de la guerre et Internet. Il y a des liens directs qui sont en train de se monter.
Voilà, on recite encore les printemps arabes à nouveau. Et c'est toute la question de comment les États sont en train de prendre la mesure de ce truc-là. On voit par exemple sur Sony qui est piraté pour la troisième fois maintenant, que ça peut faire extrêmement mal. Enfin, je pense que ça va coûter une fortune à Sony et que ça pourrait vraiment être quelque chose d'une violence terrible.
En fait, ça fait peur aux États eux-mêmes. Je pense qu'ils sont en train de considérer qu'est-ce qui se passerait si eux-mêmes étaient attaqués sous les mêmes mécanismes. Alors, c'est pas dans l'article où je me rappelle plus si c'est dans cet article-là ou dans un autre, mais les États-Unis ont même déclaré qu'ils considéraient comme un acte de guerre le fait qu'on les pirate. Alors, les pirater, ça voudrait dire faire tomber leur réseau électrique, par exemple, avec des moyens électroniques. Et ça, ce serait un acte de guerre. Alors, bonne chance pour trouver qui a fait quoi, si c'est les Anonymous ou si c'est les Chinois. Mais en tout cas, voilà, ils mettent les enjeux un peu haut.
Voilà, donc l'article précise que dans certains cas, notamment aux États-Unis, on voit à la fois Internet comme un espace de liberté, un vivier, et quelque chose qui va provoquer une explosion d'innovation, ce genre de choses, et en même temps comme un danger. Bon, en France, le gouvernement actuellement n'a qu'une seule vision, donc c'est bien. Au moins, c'est clair.
Mais ça fait peur, parce qu'ils sont partis sur la censure à fond les ballons. Et je crois comprendre que c'est un chercheur de l'IRIS, quelqu'un qui connaît bien les problématiques de la sécurité, de la défense et de l'espionnage. Allez, je t'arrête.
Bon, merci Manu.
À la semaine prochaine, Divergence.
Et on les remercie, nos émérites revues de pressistes de l'April, l'association qui vous veut du bien. On rajoutera un petit article sorti sur pcimpact.com avec musique en ligne, l'aspect d'IDAM critique Adopi et le manque de rémunération des artistes, et elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Musique en ligne avec ou sans Adopi, les artistes ne perçoivent aucune rémunération. Voilà comment l'aspect d'IDAM, société de perception et de distribution des droits d'artistes interprètes, titre son communiqué de presse envoyé il y a quelques heures à peine, à l'heure où l'article était mis en ligne, donc sur PC Impact. Un véritable pamphlet envers les maisons de production et envers l'Adopi, un texte qui s'attaque en particulier aux rémunérations quasi nulles des artistes sur les ventes de leur musique sur Internet. On vous encourage à lire cet article et puis à parcourir aussi, puisque vous trouverez le lien sur l'article de cette édition 113 de Divergence Numérique, dans l'édition de la semaine dernière ou de celle d'avant, il y avait aussi un lien vers le 8e rapport de la commission de contrôle des sociétés de perception qui lui aussi, battait la brèche en ce qui concerne la nébuleuse, l'opacité et le manque de redistribution de toutes ces sociétés. société qui, à l'heure où les labels se plaignent de perdre de l'argent à cause de ceci ou de cela, sont passés de 3 sociétés à 26 sociétés en l'espace de 5 ou 6 ans, avec les chiffres d'affaires qui vont avec. Donc voilà pour ce côté revue de presse de Divergence Numérique.
Oui. En tout cas, si les artistes ne touchent rien, on apprend que le budget 2011 de l'Adopi est d'au moins 12 millions d'euros.
Oui, bah, il en faut hein, quand même pour...
Pour envoyer des emails.
Pour envoyer des emails, hein, vous savez très bien, vous qui nous écoutez, que les emails, c'est comme le pétrole, ça coûte de plus en plus cher et ça pèse de plus en plus lourd dans votre budget, lourd comme un parpaing de 35 mm d'épaisseur.
Par exemple.
Puisque 35 mm, c'est le titre du groupe Parpaing qu'on va écouter, Pascal.
Oui, extrait de l'album Poule d'œuf, Parpaing, un groupe de Toulouse sur le label Tainia Solium, un net label de la Drôme. Et donc on va écouter 35 mm en licence Art Libre.
Art Libre.
Bande de feignants qui dit des gourmands qui s'en rend rien qu'à manger à boire. Ou les comme ce grand feignant qui dit qu'il faut des coups de pied dans une grousquée sans cesse et sans fin. Et qui compte sur un tambour rien qu'avec une baguette.
Et voilà, il y avait encore un petit discours.
Ah, ça, ce sont les morceaux de musique libre. Il faut aller vraiment jusqu'à la fin des morceaux. Il y a toujours des petites surprises comme ça.
Enfin, un rock assez intéressant, instrumental, avec pas mal de... d'instruments. Ils étaient en tournée pendant tout le mois de mai dans la région toulousaine avec Marilyn Rambeau. Et puis, c'est une musique qu'on peut retrouver sur Dogmazic. Eh bien, allez-y. On aura l'occasion d'en réécouter deux extraits au cours de cette émission qui puis, nous amène à présent.
Et puis ils seront aussi à l'honneur évidemment. Maintenant c'est un peu de coutume de Elle est libre, ma musique de cette semaine.
Voilà, de cette semaine. Pour l'heure, eh bien, c'est du fameux IG8 dont sans doute vous avez entendu parler, puisqu'on en a même parlé dans les journaux télévisés des grandes télévisions. C'était la partie internet du G8, qui est la traditionnelle réunion de ceux qui nous veulent tous du bien. Et il faut remarquer que, et l'April avait fait un communiqué de presse là-dessus, que finalement personne n'avait vraiment été invité. Néanmoins, Jérémy Zimmermann de la Quadrature y était. Alors a-t-il été invité officiellement? S'y est-il
invité? En tout cas, des sociétés civiles. Hein, des sociétés civiles, très peu étaient invités. Il y avait Reporters, Sans Frontières et la Quadrature du Net. Et puis les autres, c'était que des entreprises hein, finalement.
Donc une réunion magnifique avec un plateau digne des plus grandes chaînes de télévision, des costards à 1500 boules et puis des gens évidemment.
Un podium terrible.
Un podium terrible, des chefs d'entreprise, des ministres, notre cher ministre de la Culture et j'en passe et des meilleurs. Et tous ces gens évidemment s'entendent très bien et arrivent à nous servir un beau discours qui fait clapoter doucettement les mains du public. Néanmoins, Jérémy Zimmermann était là pour, bien dans un premier temps, intervenir au sein de cette assemblée. Il a réussi à faire son intervention, malgré le fait que régulièrement, vous l'entendrez sur le document sonore, eh bien, les protagonistes en costard à 1500 boules, n'hésitez pas à essayer de faire « Oh, bah, 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 oh, mais, oh, mais, oh, bah, non, 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 non », etc. Bah, document, on vous le laisse écouter tout de suite.
Bonjour. Je suis Jérémy Zimmermann, je suis cofondateur de l'organisation citoyenne La Quadrature du Net. Il y a quelques faits que j'aimerais rapidement exposer ici, qui me semblent manquer dans le débat et qui pourraient éclairer peut-être la compréhension de certains au sujet de la crise de légitimité globale à laquelle le droit d'auteur risque de faire face prochainement, s'il n'y est pas déjà dedans. Tout d'abord, pour une génération entière d'utilisateurs qui utilisent les technologies numériques et qui sont nés dedans, utiliser de l'image fixe, mouvante, ou de la musique, fait partie des moyens d'expression. Lorsque vous découragez l'utilisation sans autorisation à des fins d'expression, vous découragez cette liberté d'expression dont parlait John.
On décourage rien.
Ensuite, des usages qui n'étaient pas régulés avant Internet. Je pense au droit de lire, au droit de prêter, au droit de partager. Dans l'environnement numérique, monsieur le ministre, à chaque fois que vous lisez, vous copiez. L'acte de lecture et l'acte de copie sont indissociables. Lorsque vous essayez à tout prix de décourager la copie, vous allez inévitablement décourager, empêcher la lecture, le partage et l'accès à la culture. Enfin, il y a un fait qui manque encore dans ce débat. J'entends monsieur Giannopoulos dire « Les gens qui utilisent BitTorrent, c'est pas mes clients. » Je vais essayer de dire poliment ce que j'en pense. C'est juste pas vrai. C'est juste faux. Et les études empiriques le prouvent. Alors, non seulement ces gens-là sont vos meilleurs clients, mais c'est même une étude de l'Adopi en France, sur sa page 45, qui démontre invariablement que les gens qui partagent le plus de fichiers sur Internet sont ceux qui dépensent le plus.
Monsieur,
j'ai fini.
Merci.
Ce que vous semblez oublier, c'est que la culture, la musique et les films, ce sont des choses que l'on aime avec nos émotions, avec nos sentiments. Et lorsque l'on aime, on est toujours prêt à aider et à soutenir la création. On n'est pas des voleurs.
Alors oui, alors excellent moment de radio, voilà. Alors, mais non, non, non.
Non, non, non.
Non, non, on est contre rien. Non, non.
Mais pas
bon,
du
écoutez,
tout.
Monsieur, taisez-vous. En tout cas, je ne sais pas si les dignes costumés du plateau ont été applaudis avec autant de connivence que Jérémy Zimmermann l'a été dans son intervention.
Pas le même public, peut-être.
Oui, sans doute pas le même public. En tout cas, ça prouve qu'il y avait des personnes qui étaient sensibilisées à la question dans la salle. Et puis, bien comme comme tu le mentionnais tout à l'heure, Pascal, il a été reçu par la chaîne de télé locale dont j'ignore le nom.
France Télé.
France 24 ou un truc comme ça. Hein.
France Télévision, en fait.
France Télévision, voilà, une chaîne de télé associative que tout le monde connaît bien.
Du service public.
Voilà, du service public. Et qui lui a posé quand même trois questions suite à cette intervention.
Vous en pensez quoi, la quadrature du net de ce forum ?
Ce forum, pour nous, c'est une sorte de show médiatique, une espèce de e-sarco show. Ça nous dérange à plusieurs égards. D'abord, c'est une sorte de blanchisseuse politique pour Nicolas Sarkozy en France. Après 4 ans d'une politique complètement catastrophique en matière d'Internet, il a réussi à imposer la coupure d'accès de nos concitoyens avec la DOPI, la censure administrative des sites sans contrôle de l'autorité judiciaire avec la LOPSI. Ça fait 4 ans qu'on rabâche un Internet civilisé, qu'on instrumentalise les peurs, etc. Et donc là, c'est grande opération de com, Internet, c'est mes potes, la photo avec Zuckerberg, etc. Donc ce serait juste anecdotique. Au niveau international, c'est inquiétant parce que partout où l'on regarde, on voit des gouvernements qui commencent à adopter des politiques répressives en matière d'Internet, que ce soit la réaction du gouvernement américain à Wikileaks, ou ce même gouvernement américain qui saisit des noms de domaine de façon unilatérale, qui prend la décision d'enlever comme ça des sites de l'Internet, que ce soit cette même censure administrative que celle de la LOPSI qui commence à apparaître dans des pays européens. On pense aussi au blackout d'Internet en Égypte, etc. Donc partout où on regarde, on voit des gouvernements qui tentent de contrôler Internet, qui restreignent la liberté d'accès d'Internet et qui, par là, restreignent nos libertés fondamentales. Et pour moi, ce G8, ce IG8 Forum, c'est une sorte d'écran de fumée pour empêcher de voir la réalité de ces politiques.
Est-ce que ce n'est pas un peu facile d'avoir la critique généralisée et, disons, de nier les dangers qui peuvent circuler via Internet ?
Ah, je nie absolument pas les dangers. Il y a quand quelqu'un commet un crime et utilise Internet, il est situé dans une juridiction qui existe. Il y a des lois existantes, il y a des tribunaux. Et surtout, nous, ce que l'on dit au contraire, c'est quand il y a un problème, il faut passer devant les tribunaux, devant le juge.
Mais il faut bien des instruments de contrôle quand même.
Mais lorsque on va confier aux entreprises le rôle d'instrument de contrôle, là il y a un problème. Et dans le discours de Sarkozy, qui était emblématique, parce qu'il a donné son discours devant un parterre d'entreprises. Il n'y avait que des entreprises, quasiment que des entreprises représentées ici. On doit être 5 représentants de la société civile sur 1000 invités. Et il disait à ces entreprises, c'est vous Internet, c'est vous le futur, c'est vous la révolution, et c'est vous qui allez participer dans nos missions de protéger l'enfance, lutter contre le terrorisme et faire la guerre du copyright. Mais dans son discours, il disait, c'est vous les entreprises Internet. En réalité, c'est totalement faux. C'est nous, les citoyens, les utilisateurs Internet. On est 2 milliards à faire ensemble, collectivement, ce que l'on appelle Internet. C'est cet espace universel qui est réellement Internet. Et c'est les usages qui l'ont guidé. Et donc dire aujourd'hui, allez, on tourne la page maintenant, c'est les entreprises Internet. Et c'est ces entreprises qui vont participer à des missions de police ou de justice dans la lutte nécessaire contre la pédopornographie ou dans la lutte moins nécessaire contre le partage de fichiers en ligne. Quand on va substituer des missions de police ou de justice, les confier à des acteurs privés, pour nous, il y a quelque chose de tout à fait problématique.
Donc vous demandez que ce soit confié au pouvoir public ?
Alors on demande que toujours le droit à un procès équitable soit respecté et que ce soit un juge impartial qui juge les cas, que ce soit de la contrefaçon ou de terrorisme ou n'importe quoi, par exemple, voilà, à la place d'Adopi. Mais aussi, ce qui est extrêmement dérangeant, c'est de voir ces mêmes entreprises qui payent pour être ici et pour avoir le droit de s'exprimer à la tribune. La vaste majorité des gens qui s'expriment dans les différentes tables rondes et ateliers sont des partenaires commerciaux qui ont payé pour être ici. Et on voit un nombre croissant de ces entreprises développer des modèles économiques basés sur la restriction de l'accès et donc sur la restriction de nos libertés fondamentales. Internet mobile par Orange, vous avez l'interdiction de faire de la voix sur IP, du peer-to-peer, d'accéder à des services vidéo qui ne sont pas les services vidéo d'Orange. C'est une atteinte à la liberté de communication. Vivendi qui pousse un modèle du droit d'auteur qui date du 19e siècle, on va tenter d'interdire la copie à tout prix, avec pour effet dans l'environnement numérique d'interdire de lire, d'accéder à la culture et de partager la culture.
Ce que vous avez dit hier, oui.
Ouais, ou encore Alcatel-Lucent ou Huawei, qui sont aussi parmi les partenaires, qui sont les équipementiers qui fournissent le matériel de la censure d'Internet dans les régimes autoritaires. Ce que je voulais juste dire ici, c'est qu'on attendrait des gouvernements qu'ils nous protègent, nous citoyens, contrôlent les comportements de ces entreprises lorsqu'elles restreignent l'accès et qu'elles restreignent nos libertés. Et au lieu de ça, ici, on leur déroule un tapis rouge. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est que...
Est-ce que vous avez l'impression d'être un petit peu entendu des autorités ou pas du tout ?
Évidemment pas. En dernière minute, on a mis dans un coin quelques strapontins pour la société civile parce que sinon, ça allait se voir, parce que ça commençait déjà à jaser sur Internet en disant que ce machin était juste un trade show, un salon commercial entre acteurs commerciaux. Donc, on a mis Reporters sans frontières dans un coin, on a donné un badge à la quadrature du net et on dit comme ça, problème réglé. Mais ce que l'on attend, ce que l'on est en droit d'attendre des gouvernements, c'est qu'il protège cet espace universel, cet espace de liberté, cet espace qui nous permet à tous de nous exprimer pour améliorer nos sociétés, pour améliorer la culture, pour améliorer l'économie qu'est Internet. Et au lieu de ça, ils font la part belle aux entreprises qui l'attaquent et ils l'attaquent eux-mêmes. Et c'est ça qui nous dérange.
Et juste un mot de conclusion, vous représentez combien de divisions ?
Je ne représente que moi-même et qui même me suivent.
Voilà. Parfait. Merci.
Et voilà donc l'intervention de Jérémy Zimmermann de la Quadrature du Net qui remet un petit peu quand même les pendules à l'heure.
Et oui, il faut remettre les pendules à l'heure parce que c'est dans ce nuage de fumée qu'on n'y voit plus rien.
Elle est bonne. En attendant, ben voilà, on va après cette valse, on va en faire une autre avec toujours notre groupe bétonné et toulousain.
Et oui, avec la valse au parquet Rabalan, extrait de l'album Poule d'œuf de ce groupe Parpaing, c'est en licence art libre. Et puis on se retrouve, c'est sous le label Tiny Solium, n'oublions pas, et on se retrouve dans 3 minutes 38
pour parler son. We'll be right back. Et voilà, un morceau aussi à tiroir.
Et oui, à tiroir qui fait toujours peur aux techniciens, aux manettes derrière la vitre. Toujours dans Divergence Numérique, d'ailleurs, sur le 93.9 de Divergence FM. Le 103.3, 104.1, 102.0 de Radio Escapade. Et puis, vous aussi qui nous écoutez sur le 88.3 de CKIA FM.
À Québec.
À Québec, et oui. Bonjour à vous tous. Ou bienvenue à vous tous. Nous sommes pour la troisième partie de cette divergence numérique où on accueille Pierre, Jocelyn, André. Bienvenue.
Bien, merci.
Alors tu es là, on se connaît déjà depuis un bout de temps sur d'autres projets au sein de l'association Montpellier Libre avec les moteurs de recherche système expert. Mais là tu nous reviens avec un autre domaine qui est le son.
Oui, je reviens sur le son, car le dernier projet sur lequel j'avais travaillé, c'était J'écris. C'était de manière à pouvoir faire des cours en ligne, enfin des exercices en ligne, sans QCM, puisque je pense que pour ouvrir l'esprit, pour faire travailler la mémoire gestuelle, il ne fallait pas avoir de QCM. Et pour améliorer ce système J'écris, je me suis dit, je vais aller travailler sur les sons. Et j'ai appliqué la même technique que sur les autres systèmes, les clés USB bootables, ce que fait les Linux avec les Live CD. Ça veut dire que on travaille à plusieurs niveaux et on utilise les propriétés, les lois de chaque niveau pour faire ce que l'on veut. Et on a des niveaux qui créent de nouveaux niveaux, qui créent encore des niveaux supérieurs et à chaque fois plus lourds. Donc je suis allé sur les sons, j'ai eu l'intention de reproduire la même chose. Et je me suis aperçu que les systèmes des sons actuellement, c'est tout basé sur de l'échantillonnage et accessoirement compressé. Et donc on n'avait pas ce travail de l'intelligence humaine sur les niveaux, ce travail qui justement nous permet de faire pas mal de choses. Donc dans un premier temps, j'ai voulu reproduire la chose avec Java, ça a duré quand même 6 mois. Et puis, je suis arrivé à la conclusion qu'on ne pouvait pas le faire dans ce langage. Donc, j'ai changé de langage. Je suis passé sur un autre langage, le langage C. Et je me suis rendu compte qu'avec le langage C, justement, je pouvais remonter jusqu'à la cause qui produisait les sons. Donc, en fin de compte, je ne cherchais pas à faire ce qui est fait actuellement, imiter les sons. Ce que je voulais, c'est remonter un premier niveau, la cause qui donne le son, après la cause qui pourrait créer la cause qui donne les sons. Et donc, je suis remonté à 5 niveaux comme ça, ce qui nous permet d'avoir des fichiers sons beaucoup plus légers. Étant sous Linux, je me suis dit, est-ce que ces cartes actuelles qui sont basées sur l'échantillonnage, ces cartes son, ces cartes audio, sont intéressantes? Et en fin de compte, pas du tout. Tout ce qu'elles font, ces cartes son, c'est que, en voulant imiter l'effet, on n'arrive pas à voir ce que l'on veut. Donc on ne peut pas créer, et en plus c'est une perte de temps et d'énergie. Autant passer sur des systèmes électroniques, si on prend tout simplement des bases de temps RC, ça respecte les lois physiques. Donc autant rentrer directement les informations sur des cartes audio RC, et on aura beaucoup moins de dépenses d'énergie et un signal beaucoup plus juste. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on va pouvoir produire plein de nouveaux effets qui ne sont même pas imaginables avec ces cartes échantillonnées, ces cartes audio qui sont utilisées actuellement. Voilà, j'ai été un peu long peut-être.
Alors, quand tu dis une carte RC, ça veut dire quoi RC? C'est un acronyme.
Non, RC, c'est pas carte RC, RC, c'est une résistance et une capacité. C'est en électronique, quand on met les deux ensemble, ça reproduit une variation particulière. Cette variation, c'est une exponentielle amortie. Et on retrouve justement, c'est les lois physiques, hein, je veux dire, que dans les ondes, dans plusieurs phénomènes, échanges thermiques, tout ça, ou même en biologie, j'ai pu l'observer, on retrouve on va appeler ça des cas possibles. Donc là, directement, on retombe sur le cas possible. Il suffit d'indiquer la base de temps, parce que chaque onde a sa propre vie, donc sa propre base de temps. Il suffit d'indiquer la base de temps et d'indiquer la valeur de l'amplitude. Donc avec un octet, on peut indiquer une base de temps. Avec deux octets, on peut indiquer la valeur de l'amplitude. Avec donc trois octets, on peut faire une demi-onde. Et là, si on met derrière cette information trois octets, une carte audio que je voudrais bien appeler Linux Audio, si ce n'est pas déjà pris, qui soit composée tout simplement de cette base RC avec des transistors, bien sûr, pour la puissance, on pourrait avoir un signal intéressant. En plus, en travaillant avec ce nouveau signal audio, l'avantage, c'est que chaque canal représente une sortie, représente un fichier séparé. Ce qui va nous permettre de créer autant de fichiers qu'on veut. Et par exemple, si on dit notre carte audio elle a 8 sorties et on décale le même fichier audio 8 fois, ça va faire un effet, et qu'on décale de 5 mètres chaque enceinte, ça va nous donner un effet de passage. Si c'est quelqu'un qui parle, on va avoir l'impression que la personne se déplace ou faire passer un train. Enfin, il y a plein d'autres effets sonores qu'on va pouvoir produire avec cette technique, qui ne sont pas envisageables actuellement parce que on aurait du fait qu'on travaille sur les effets, qu'on ne travaille pas sur les causes, on produit des effets secondaires avec des lois qui me semblent un peu étranges, quoi, qui indésirables, qu'on n'aura pas là parce qu'on travaille sur les causes. Et l'avantage de travailler sur les causes, entre autres pour les musiciens, c'est que au lieu d'avoir une seule chanson sur tel espace, ils pourront en mettre 5, 10, ils pourront en mettre beaucoup. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, et je reviens à la raison de la création de ce format audio, c'est que de pouvoir modéliser la voix humaine. Et le fait de pouvoir modéliser la voix humaine avec des fichiers ultra légers, puisqu'on va travailler sur des causes, de causes, de causes, de causes, de causes, donc on va avoir des choses ultra légères, ça, et qui demandent des cartes audio avec simplement une simple base de temps et des transistors, donc des choses qui vont pouvoir être miniaturisées, par exemple dans une paire de lunettes, qui pourront donner des informations aux malvoyants. Par exemple, la paire de lunettes, si on met un petit radar dedans, pourra dire attention, déplacement rapide, ou aider à la lecture d'un livre. Ou pour la personne qui est sourde, afficher, avec la reconnaissance vocale, carrément afficher les termes qui s'entendent. Mmh. Parce que l'objectif, il est là. Avec le concept actuel de travailler sur des effets, on ne pouvait pas faire des choses ultra légères. Et moi, ma démarche, c'est d'avoir des fichiers sons ultra légers, de manière à pouvoir les faire transiter sur la toile, de manière à ce que les gens puissent donner des réponses orales. Voilà, c'était la raison.
Alors, pour les musiciens qui nous écoutent, est-ce que ça veut dire que depuis une dizaine, une vingtaine, voire même une trentaine d'années, les cartes qu'on leur vend, qui sont chargées ras la gueule de DSP pour arriver à traiter 48 pistes simultanément, des multi-effets, etc., est-ce que toute cette industrie-là repose sur une fausse piste ? En termes de performance et de nombre de transistors embarqués.
Là, je pense pas qu'on puisse dire parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas utilisé la bonne technique ou en fonction du savoir actuel qui n'a pas...
Qu'il était sur une fausse piste, d'accord.
Voilà, ouais. Il n'était pas... Il fait partie de l'évolution. C'est, j'ai essayé d'aller à la pêche dans une rivière polluée, j'ai rien attrapé. Où j'ai attrapé des choses qui n'étaient peut-être pas très intéressantes, je suis allé chercher dans une autre rivière. Mmh. J'ai passé 6 mois sur Java, donc rien. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Disons que l'intérêt, c'est... Il n'y a pas d'absolu en science, il n'y a pas de vérité. En science, il n'y a pas de titre, il n'y a pas d'absolu. C'est chacun, il trouve des arguments qui lui conviennent au moment et ces arguments, il les utilise. Et puis, il a un savoir qui est valable à un certain instant. Et demain, il y aura quelqu'un qui arrivera avec un savoir qui sera plus, qui correspondra plus à ce dont il a besoin. Pour moi, un physicien, c'est une cuisinière. Une cuisinière qui va passer sa cocotte minute sous l'eau froide alors qu'elle était en train de chuchoter. Et tout simplement, elle peut ouvrir la cocotte minute. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait tomber la pression sans toucher la température. Or, qu'est-ce qu'on nous apprend en physique, d'une manière absolue ? P PV est égal à NRT, que la pression est égale à la température. Mmh. Donc on voit très bien que si on ne cherche pas à aborder les choses sous d'autres concepts, du genre, moi, j'ai pris comme référence...
Alors, justement, j'allais y venir pour terminer, comme on n'a pas super beaucoup de temps, on terminera justement par cet aspect philologique un petit peu de votre travail, puisque en suivant les liens qu'on a mis sur l'article de l'émission, on pourra aller voir un petit peu votre approche, justement, où on remet un petit peu les choses à la place en disant que dès qu'on cite des nombres, c'est de la communication, et que l'aller-retour entre la philosophie et les sciences physiques ne se fait pas... peut-être plus suffisamment pour des raisons justement de marketing et de communication peut-être, mais là on n'aura pas le temps d'aborder tout ça. J'encourage les gens à aller lire et regarder vos démonstrations, mais comment on passe de la mise au point d'un format audio à une carte son elle-même, où là on tombe dans du matériel, etc.
La nécessité fait force de loi. Pour que le système puisse fonctionner, il a besoin d'outils qui soient à la hauteur. Voilà. Disons qu'on n'a que 3 octets par demi-onde. Ces 3 octets, ça c'est qu'un premier niveau de modélisation. On peut le modéliser à 5 niveaux plus élevés. Donc il faut que derrière il y ait du matériel qui comprenne cette information sans avoir besoin de décodage, d'échantillonnage, de faire des actes incohérents quelque part. Enfin, ça a pu être incohérent puisque aujourd'hui, si on m'entend et si on nous entend, et tout le monde utilise tous les jours les sons, c'est parce qu'il existe ce système échantillonné, basé sur la GET, tout ça. Non, l'intérêt, je crois qu'il faut avoir une analyse globale, et dans cette analyse globale, garder raison. C'est quelque part, c'est vraiment dans la philosophie du siècle des Lumières, la philosophie de tous nos découvreurs qui travaillaient sur des égalités, que ce soit Sadi Carnot, Bernoulli... Lavoisier, ils travaillaient tous, ils ont fait des découvertes parce qu'ils avaient justement ce concept de l'analyse d'un tout et de travailler sur les différents états d'équilibre à plusieurs niveaux différents dans cette analyse d'un tout. Donc il n'y a pas d'absolu. En science, il n'y a pas d'absolu. Il n'y a pas de règle générale. Il n'y a pas de système mathématique qui va pouvoir passer partout parce que chaque système d'équilibre, chaque niveau a ses propres lois, son propre système mathématique. Et donc c'est justement là d'associer ce que l'on recherche à tel moment qui nous permet d'arriver où l'on veut, et tout ceci est fonction du moment. J'ai la chance d'avoir l'informatique, je suis un enfant du siècle de l'informatique, donc je jongle avec tout ce qui est système exponentiel, tout ça. Quand j'ai appris les systèmes exponentiels, c'était avec une règle à calcul. La moindre opération, ça me prenait 10 minutes, un quart d'heure, et ça donnait de suite impossible à imaginer. C'était il y a 30 ans, un peu plus. C'était difficile à imaginer. Aujourd'hui, je prends une calculette, je rentre les chiffres et ça me sort de suite. Et dans mon système audio, pour pouvoir être compatible avec ces cartes échantillonnées, c'est des milliers de fois que cette opération est faite.
Et cette carte, on la verra, est-ce qu'elle existe déjà à l'état de prototype ou...
Non, actuellement, elle est à l'état de concept. Je l'ai dans la tête, donc j'ai quelques notions d'électronique. Je ne suis pas électronicien, mais j'ai quelques notions. Donc je pourrais faire un schéma type, même la dessiner, retrouver les composants, et même avec du temps la réaliser. Mais je compte que quelques-uns le fassent sans que j'en arrive là.
Alors ils pourront le faire en allant sur letime.net où ils pourront bien justement, parce que tout est disponible, les paquets du modéliseur 2 sens wave stéréo V3 bin 3 octets par demi-onde de filtre 5 points, et je vais pas tous les énumérer parce qu'il y a au moins il y a plusieurs dizaines de paquets à télécharger. En ce sens, cette page là c'est letime.net/légère sans accent. Et bien effectivement, tous ceux qui ont de la science à partager sur ce projet ont tous les outils, toutes les données pour pouvoir le faire aujourd'hui.
Oui, c'est un outil pour découvreurs. Enfin, ce qui m'intéresse le plus, c'est de partager un concept, de dire voilà comment on peut faire des découvertes, voilà comment nos découvreurs ont fait les découvertes. C'est un enseignement qui m'a été donné à la base dans les cafés entourant le CNAM rue Saint-Martin, Paris. Donc c'est cette approche des sciences que je transmets. C'est un cadeau qui m'a été fait il y a plusieurs décennies. Donc je le retransmets dans cette page. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun dans son domaine, il voit qu'on peut aussi avoir une approche scientifique qui est différente de celle qui est admise et acceptée actuellement. On peut avoir un autre type alors ça peut être en biologie, ça peut être dans telle science physique particulière ou même dans des sciences humaines ou voilà.
En tout cas, Pierre-Jocelyn André, si on fait un débat sur la recherche et puis peut-être justement ce rapport entre la physique et la philosophie avant d'en venir au nombre dans notre société où aujourd'hui on a férocement l'impression que la recherche est assujettie au nombre, un peu comme nos policiers aux chiffres, eh bien on ne manquera pas de vous réinviter. Il nous reste assez peu de temps, Pascal, pour...
Oui, à noter que Pierre-André Jocelyn André sera,
oui,
sera,
on sait pas trop.
sera présent au point libre du vendredi 10
à Kawenga,
10 juin à Kawenga, tout à fait à Montpellier. Il pourra nous en parler, vous pourrez discuter avec lui, partager ce moment, en sachant que, comme tu le disais, sur la page tout est disponible, c'est sous licence Creative Commons by NCSA, donc paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique, toujours avec l'autorisation de l'auteur si vous voulez faire d'autres usages, et puis toute utilisation de cette œuvre en dehors du système d'exploitation Linux est interdite sans l'accord de l'auteur. Voilà, c'est dit.
Alors si nous voulons avoir une chance de passer le dernier titre de Parpaing, il va falloir passer tout de suite aux agendas du Libre.
Non, on passe aux agendas.
Alors nous allons passer aux agendas du Libre tout de suite. On rappelle les adresses, c'est .org pour l'Hexagone, c'est .be pour... je ne sais pas quelle est la forme de la Belgique, en tout cas c'est la Belgique, et c'est .qc.ca pour nos amis du Québec qui ces temps-ci, à part demain, n'ont pas grand-chose à se mettre, puisque demain à Ovelay, il y aura une réunion du Sambre Lugue, et puis à Braine-l'Alleud, il y aura...
c'est la Belgique, hein.
C'est la Belgique, oui, absolument, je me suis trompé d'onglet, mais ça arrive, c'est mieux que de s'écraser un onglet. Et voilà, pour la Belgique, ce sera à Ovelay une réunion Sambre Lugue, et puis à Braine-l'Alleud, Drupal, Paul présente nidepoule.be. Allez voir ce site, c'est tout ce qu'il y a à voir pour les 15 jours à venir sur agendadulibre.be.
Non, mais ça se remplit pendant le mois de juin, puisque la semaine dernière, il n'y avait rien. Là, il y a quelque chose. Tu vois, ça vient semaine par semaine, en fait. C'est pas planifié.
Voilà,
un mois l'avant.
C'est pas une salle de presse fébrile et terrible, mais sur .org, il y a quand même pas mal de choses qui se passent.
Oui, puis
France.
Juste pour terminer avec le Québec, la rencontre du club Linux Atomique à Montréal, ce sera le 16 juin.
Le 16 juin.
Sinon,
oui,
en France,
c'est tout ce qu'il y a,
on trouve pas mal de choses.
Agendadulibre.org est pas mal achalandé.
Oui.
Avec des rendez-vous un petit peu partout, demain au Toulonnais, à Paris, à Rennes, samedi à Vinsenheim.
Vinsenheim.
Vinsenheim, bah oui, c'est pas la peine de le dire avec l'accent. Une réunion du club Linux à Brignoles le 14, à Biarritz, un atelier de bidouille informatique libre, tandis que le même jour, le 15, à Dunkerque, se tiendra un stage LaTeX. À Lyon, le 16, un jeudi bidouille dépannage logiciel libre. À Paris, un third jeudi Parinux. À Villiers-sur-l'Orge, toujours le 16, une install party Ubuntu.
Tandis que
et le lendemain, ce sera à Rennes et à Vire qu'on pourra respectivement avoir la permanence Gulliver autour du libre et puis une utilisation de base d'Audacity, logiciel éditeur linéaire audio très utilisé ici, par exemple.
On ne saurait vous conseiller que d'aller sur évidemment la page de l'article de l'émission divergence-fm.org Société Divergence Numérique et puis d'aller évidemment sur les incontournables agendas du libre où que vous soyez. Généralement, il y a quelque chose qui se passe pour le libre à côté de chez vous.
Nous sommes en train de dépasser l'horaire. C'est avec Parpin qu'on se quitte. Un groupe de Toulouse qui nous interprète Le Long du Pied. C'est de la licence Art Libre. Le Long du Pied, ça sent le ciment. C'est le sous-titre, 3 minutes 55, au bout desquelles nous n'irons peut-être pas. Mais ainsi va la vie.
En tout cas, merci à vous et à la semaine prochaine.
Et à la semaine prochaine et restez libre. On vous remercie. Notre invité, à bientôt.
Merci. Ciao.